Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Dans la série Merveilleux francophile argentin proposée par Axel Mauger, auteur d'un essai sur les élites argentines et la France, voici le portrait d'une femme exceptionnelle, Victoria Ocampo, qui fréquenta dans les années 30 et jusque dans les années 70 tous les grands noms du milieu littéraire français, européen et argentin. Ce portrait de Victoria Ocampo est en deux émissions, dont voici la première.
Les journées stimulantes que je suis en train de vivre à Buenos Aires me permettent de découvrir des moments privilégiés de l'histoire intime de la francophilie argentine. Elle est d'une richesse insoupçonnée. Même si demain, il me faudra partir, franchir une frontière aérienne, espace ô combien symbolique, j'ai l'intime conviction que je n'oublierai rien des heures précieuses passées auprès de tant d'êtres de culture ou tournées vers la culture. Par bonheur, le livre de Paul Morand, vous le connaissez maintenant, qui s'intitule « Le voyage », m'accompagnera sur le chemin du retour. Comme lui, je pense que le plus beau voyage, c'est celui qu'on accomplit les uns vers les autres. De même, je partage le point de vue de Goethe. En voyage, un sentiment de paix et de sécurité m'enveloppe. Impossible également de laisser dans l'ombre cette observation de Morand. À voyager, certains s'endurcissent, mais la plupart deviennent moins grossiers, ou cette autre réflexion « Quand on revient, est-ce la terre qui a rapetissé ou soi-même a-t-on grandi ? » J'apprécie Paul Morand, car c'est un être complexe, épris de liberté. N'est-ce pas encore lui qui écrit toujours dans Le Voyage ? Avoir vu beaucoup de pays, c'est arriver jeune à la maturité, un des secrets du bonheur. Comme pour y faire écho, n'oublions pas les propos de Goldoni, qui n'a pas voyagé plein de préjugés, et ceux de Disraeli, le voyage enseigne la tolérance. Avant de quitter ce sol, le sol argentin plein d'avenir, il est une autre reine que je veux aujourd'hui vous présenter. Il s'agit de la señora Victoria Ocampo. Son nom est apparu au détour de plus d'une phrase de mes émissions et de phrases de mon livre sur les élites argentines et la France, publié aux éditions de l'Harmattan, deuxième édition en 2004. Juste avant de me retirer sur la pointe des pieds, j'essaie de remonter le temps, de recréer ce qui n'a pas vraiment disparu, c'est-à-dire le souvenir de la présence bouleversante d'une femme soucieuse de véritables échanges, et cette femme a réussi son pari qui n'était pas mince. Nul doute que l'univers de la féminité argentine est représenté à merveille par ces trois figures que sont Eva Perón, personnage controversé mais non exempt de qualité, Amalita Lacroze de Fortabat, dont j'ai tracé le portrait dans mon livre sur les élites argentines et la France, et celle qui reste magnifiquement présente pour les intellectuels latino-américains francophiles, Victoria Ocampo. Pour comprendre le rôle majeur qu'elle a joué dans l'épanouissement culturel de son pays, il faut dévorer le livre que Laura Ayerza de Castillo et Odile Felgin, qui s'intitule tout simplement Victoria Ocampo, lui ont consacré. Qu'elle me pardonne, j'y ai puisé au fil des pages des informations afin d'éclairer cette femme exceptionnelle. Née le 7 avril 1890, dans une famille qui se confondait avec l'histoire de l'Argentine, Victoria Ocampo, fille de grands bourgeois, a la chance de venir en France dès l'âge de 6 ans. La belle époque fascine alors les étrangers. Paris étant à la fois un phare spirituel et un lieu de plaisir. Dans le monde entier, la femme française était appréciée pour ses qualités multiples. En Amérique du Sud, elle avait une réputation incorrigible de séductrice, comme en témoigne un feuilleton télévisé récent intitulé « Marie Galante », dans lequel Macha Merrill, d'origine russe d'ailleurs, campe un personnage haut en couleur d'une directrice de maison close de luxe. En ce temps-là, l'art de donner du plaisir était surtout français. Dans le chemin de Buenos Aires, nul autre qu'Albert Londres décrit avec force détail le monde de la prostitution en terre sud-américaine. Cette digression plutôt canaille cherche à souligner que pour une élite, tout ce qui vient de Paris en cette fin du 19e siècle, même les prostituées, plaît. En contrepartie, les Sud-Américains qui honorent de leur présence notre capitale ne manquent pas, eux non plus, d'attrait. Ils font figure de nabab. Ces messieurs sont d'ailleurs mis en scène par Offenbach dans sa célèbre Vie parisienne et décrits avec talent par Jules Supervielle, futur ami de Victoria Ocampo dans L'Homme de la Pampa. La petite fille, je parle de Victoria Ocampo, aura bien sûr une perceptrice française. Victoria écrira plus tard « Depuis ces jours où je pêchais les grenouilles au pré Catelan, la France a laissé une marque indélébile sur ma vie. Tout est dit, elle adore la France. Elle ose même avouer « Je parle mieux le français que l'espagnol et cela me plaît beaucoup ». Puis, c'est le retour en Argentine où, au fil des années, sa sensualité s'éveille, son goût pour l'indépendance s'avive. Bref, elle s'affirme. En rébellion contre son milieu conservateur, on pourrait même dire ultra-conservateur, la chance lui sourit lorsqu'elle a la possibilité d'étudier le répertoire du théâtre français avec, tenez-vous bien, l'inoubliable Marguerite Moreno. Âgée à l'époque d'à peine 35 ans. Cette comédienne avait une beauté étrange, servie par des habits qu'elle portait toujours noirs. Elle fait penser à Maria Cazares, elle aussi d'origine espagnole, qui saura à merveille porter le noir, notamment dans un film souverain de Robert Bresson, « Les Dames du Bois de Boulogne ». Je garde également un souvenir très vif du personnage de Douairière, interprété par Marguerite Moreno dans ce film formidable qui s'intitule « Douce » de Claude Autant-Lara. La délicieuse Odette Joyeux l'accompagnait dans ce chef-d'œuvre. Je n'ai que rarement vu une actrice aussi puissante au cinéma. Quelle femme, quelle mère, quelle autorité, quelle fougue, quelle méchanceté mélodieuse. Au théâtre, dans Lucrèce Borgia, elle n'était pas mal non plus. Alors, essayons d'imaginer un bref instant les rencontres entre la Moreno et la jeune Victoria. Croyez-moi, j'aurais donné cher pour y assister. Elle a dû lui raconter des histoires étonnantes, lui apprendre le jeu de la vie, autant d'ouvertures qui ont permis à la jeune Argentine de respirer mieux, de commencer à se faufiler hors d'un monde fermé. Les échanges avec les siens continuant d'être difficiles, aussi se réfugie-t-elle dans la lecture. En 1908, un nouveau voyage en France qui durera 2 ans la comblera. On se multiplie en voyageant, à noter avec justesse quelque part le cardinal Guérin. Retrouvons Paul Morand, toujours heureux de préciser, s'en aller, c'est gagner son procès contre l'habitude. Une fois installée à Paris, elle suit des cours variés à la Sorbonne, grec ancien, histoire orientale, littérature italienne, anglaise, allemande et grammaire française, bien sûr. Au Collège de France, elle écoute émerveillée les conférences du philosophe Henri Bergson. Cette jeune femme qui, je viens de le souligner, étouffée en Argentine, s'épanouit soudain. Elle découvre la liberté, se sentant à Paris comme une âme sans passeport. Ce qui ne l'empêche pas de regretter par moments Buenos Aires, ville à l'agréable douceur créole. Remarquons que ce mot de douceur revient dans le récit « Vol de nuit » de Saint-Exupéry, récit écrit justement à partir de son expérience sud-américaine. Les témoins de l'époque évoquent Buenos Aires comme une ville fantastique, d'une beauté vénéneuse, en continuelle croissance. Amour de Buenos Aires, fou et désespéré, nostalgique, dont Borges se fit le chantre dans l'une de ses nouvelles. Le Congrès, peut-on lire dans l'essai pénétrant de Laura Ayerza de Castillo et Odile Felgin. Intelligente, on a compris que Victoria l'était. Mais en plus, elle devient une fort belle femme. Je prends la description offerte par Laura Ayerza de Castillo et Odile Felgin. C'est une vraie beauté classique. Un ovale très pur, une bouche mince et très joliment dessinée, un nez fin et de très grands yeux sombres en amande, fixant l'insaisissable, grande, 1m72 pour l'époque, élancée, une superbe chevelure au burn, de très longues jambes, elle laisse désormais son appétit de vivre éclater sur les photos. Sa beauté rare s'impose, au fil des ans elle va la travailler, la sophistiquer, la cultiver. À 49 ans, elle est photographiée par Gisèle Freund. Jamais Victoria n'a été plus épanouie, plus rayonnante, nous racontent encore les deux femmes. Son mariage s'avérant un échec, elle réussit à surmonter la déception qui en découle en découvrant l'amour-passion dans les bras d'un certain Julián Martínez. Même s'il n'est guère facile d'être une femme adultère à l'époque en Argentine, Victoria laisse la passion la saisir, l'envelopper, l'entraîner dans un immense tourbillon. Lorsque José Ortega y Gasset la rencontre en 1916, ébloui par elle, par sa beauté, il lui déclare « Vous êtes, madame, une apparition exemplaire de féminité. » Troublée, elle l'est par le personnage, mais en vérité plus par son intelligence que par son physique, le beau Julián Martínez continue de la combler. Bien qu'il ne connaisse pas grand-chose aux subtilités intellectuelles, il a pour lui un avantage sur celui qui aimerait l'écarter, l'amour de la vie. Remuée plus qu'elle ne veut l'avouer par cette rencontre avec Ortega y Gasset, Victoria s'isole davantage pour lire et se met à collaborer au grand journal de La Nation dès 1920. À partir de cette date, elle appartient au monde des lettres argentines. Elle a 30 ans. C'est alors que l'œuvre de Rabindranath Tagore retient son attention. Elle y découvre un dieu d'amour, de bonté, de pardon, ce qui l'amène à s'intéresser au dialogue des cultures. Un jour béni arrive celui où elle rencontre l'illustre auteur indien, venu sur son invitation en Argentine. D'autres amitiés privilégiées suivront et l'aideront à s'épanouir. Ortega y Gasset, même repoussé, n'oubliera jamais cette Mona Lisa de l'hémisphère sud qu'il aurait tant aimé avoir pour muse. On le comprend aisément. Au fil des années, les grandes amitiés, pour reprendre le titre d'un livre de Jacques Maritain, viennent la surprendre. Un jour, elle fait la connaissance du poète franco-uruguayen Jules Supervielle, une personnalité attachante dont j'ai déjà parlé. Un autre jour, celle magique de Borges, dont j'ai parlé aussi, grâce à l'écrivain argentin Ricardo Guiraldes, auteur du roman Don Segundo Sombra. Dans ce livre coloré, le gaucho, le fameux gaucho, s'affirme comme un héros mythique. À la suite de nombreuses lectures et entretiens, Victoria Ocampo se met à apprécier les qualités de l'art moderne. Elle s'inspire des travaux de Le Corbusier afin de dessiner les plans d'une nouvelle villa à Mar del Plata, une station balnéaire à la mode. Les rencontres électives se poursuivent. Lors d'un séjour à Paris en 1928, des amis lui présentent Hermann von Kesserling, un esprit supérieur qui s'attend naturellement à ce qu'elle devienne sa maîtresse. Elle repousse les avances pressantes de l'Allemand, mais ce dernier lui a fait perdre son état de grâce. En réalité, il a agi sur elle comme un révélateur. Pour la première fois de sa vie, elle se sent vraiment libre. C'est durant ce séjour qu'on l'introduit auprès de Pierre Drieux-La Rochelle. D'emblée, Victoria lui plaît. Ce séducteur aime deux types de femmes. D'abord la fortunée, mondaine, cultivée et de préférence étrangère. Ensuite les prostituées dont il ne peut se passer. De son côté, Victoria est attirée par son élégance méticuleuse, très britannique. Son côté soigné, net, raffiné, écrivent Laura Ayerza de Castillo et Odile Felgin. Ce playboy de la littérature française, bien qu'il soit non dénué d'égoïsme, a de la magie de la profondeur. Son épouse, Olésia, car notre ami Pierre Drieux-La Rochelle est marié, son épouse Olésia étant à la montagne, l'homme couvert de femmes peut consacrer la plupart de son temps à la belle Argentine. Il devient la distraction de Victoria Ocampo, n'hésite-t-il pas à confier. N'ayant rien d'une femme cherchant les aventures, elle ne s'engage pas trop dans cette relation, elle reste lucide, n'ignorant pas que ce consommateur rejette ensuite les femmes avec un art consommé. D'instinct, elle a deviné sous l'humour de Drieux la morbidité, le côté autodestructeur, ce qu'elle appelle l'acide drieutique. Beau joueur, notre séducteur accepte la critique, une tendresse certaine s'installe entre eux sous des rapports quasi virils, deux enfants perdus se sont rencontrés. Victoria s'interroge, elle comprend que ce qui les réunit temporairement, c'est une sorte de désespoir commun fait de solitude et de problèmes sexuels, une crise de conscience aussi. Elle constate que son amant souffre de voir la décadence détruire son pays. Ce troisième voyage en France s'avère fondamental pour Victoria, car il lui permet de se connaître telle qu'elle est, avec ses défauts et ses qualités. À Paris, cœur vibrant de l'Europe, elle a la possibilité de réfléchir sur son identité d'Argentine, d'Américaine, bref, de s'interroger sur sa différence. Si elle réalise soudain combien l'Amérique hispanique coule dans ses veines en même temps, elle constate à quel point l'esprit et la création sont toujours l'apanage des Français et des Européens. Ce voyage l'a rendue plus adulte, moins naïve. Drieux l'a marquée bien plus qu'elle ne veut l'avouer. Dès son retour dans son pays, elle renoue avec Ortega y Gasset, fait des gestes pour lui et pour Henri Michaud, chez le futur explorateur de l'espace du dedans, je parle d'Henri Michaud. Elle apprécie la finesse et la puissance de ses observations sur l'Amérique du Sud. Michaud, le poète ultra sensible, a senti l'âme invisible à la plupart des yeux européens de sa terre natale. De son côté, Ortega y Gasset, stimulé par sa protectrice, vient donner plusieurs conférences. Ses propos oblige certains Argentins à explorer leur réalité, leur patrie intime. Dans une deuxième édition, je poursuivrai ce portrait de Victoria Ocampo. Merci.
Vous venez d'entendre la première partie de cette émission consacrée à Victoria Ocampo. La seconde partie est disponible à l'écoute ou au téléchargement dans la médiathèque de Canal Academy. Pour y accéder, tapez Victoria Ocampo ou Axel Mauger dans le moteur de recherche de la page d'accueil du site canalacademy.com.